Seigneur, ta parole reste alors que nous passons, mais elle nous donne la force de la vie éternelle et elle nous entraîne dans ton règne. C'est pourquoi elle devient, elle traverse les générations et les modes, manne sans cesse renouvelée, puissance objective, bénissant ses auditeurs et ses interprètes, leur donnant une vie qui ne peut être vaine. Amen. Et nous lirons ce matin deux versets de cette parole. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, les versets 19 et 20. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux.
Dans le passage de Matthieu qui vient d'être lu se trouve une recommandation que j'ai toujours voulu laisser passer. Une recommandation que j'ai mise dans la catégorie naïveté. Une recommandation que j'ai mise dans la catégorie impossibilité. Que j'ai mise dans l'autre catégorie, un peu plus vague, phrase de l'Évangile qui suscite au mieux de la condescendance devant la crédulité des chrétiens, voire du mépris à cause de leur faculté à ces chrétiens d'entonner des sentences auxquelles ils ne croient pas vraiment, comme les Grecs anciens, à leur mythe. Nous vivrions, nous, les chrétiens, dans l'imaginaire, dans le monde des choses qui n'existent pas. Nous nous serions abrités dans des creux du réel, dans des grottes, des refuges, pour ne pas voir le monde tel qu'il est. Les gens tels qu'ils sont et tels que nous sommes. Nous ressasserions sans fin des phrases qui n'ont aucun impact sur la vie réelle, mais ces phrases, ces sons, nous protégeraient, mais aussi nous endormiraient, car nous serions trop faibles pour assumer le monde tel qu'il l'est. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai choisi ces deux petits versets parce que, justement, mon premier réflexe, comme si je m'étais mis à l'extérieur, à la première lecture, a été effectivement un réflexe condescendant avec moi-même. Si cette recommandation de Jésus à ses disciples fonctionnait, ça se saurait. C'est alors que, bien que crédule et naïf, je me suis quand même mis à réfléchir un peu pour composer le message que je devais nous adresser ce matin. Et d'abord, je me suis demandé si j'avais déjà fait ça, à savoir m'accorder avec quelqu'un pour demander avec cette personne quoi que ce soit à Dieu. Je ne crois pas. Déjà, il faut voir que ce « quoi que ce soit », ça ne veut pas dire n'importe quoi. En grec, c'est « peri, pantos, pragmatos ». Pragmatos, pragma, pragmatique, hein, vous voyez bien comme ça résonne. Il s'agit ici d'un fait, de quelque chose de concret. Il s'agit donc de demander toute chose, certes, mais concrète. Donc ce n'est pas des demandes morales ou qui se situeraient dans le domaine des idées, comme la demande d'amour, la demande de paix, la demande de bonté. Plutôt, cette formule-là nous pousserait à sortir effectivement de ces demandes très agréables et spontanées, habituelles, nous inviterait pourquoi pas à inventer, puisqu'il serait possible de tout demander, des demandes nouvelles à inventer, plutôt que les demandes conventionnelles, presque automatiques. Donc, inventer des demandes qui éventuellement susciteraient des réponses qui, elles, changeraient le monde d'une façon surprenante. Voilà donc pour la traduction de l'expression « quoi que ce soit ». Mais on va revenir au début de la recommandation. Est-ce que je l'ai déjà fait ? M'accorder avec quelqu'un d'autre pour demander à Dieu quelque chose. Alors certes, j'ai maintes fois prié avec mes frères et mes sœurs, et en général à plus de deux ou trois, mais je crois ici que cela n'a rien à voir. Il s'agit ici, avant de prier ensemble, vous l'avez entendu, il s'agit de s'accorder. Et le verbe grec choisi par le rédacteur de l'Évangile est le mot qui a donné en français le mot « symphonie ». Alors, je me suis aperçu que si j'avais maintes fois prié seul, demandé seul à Dieu quelque chose, et même si j'ai reçu des réponses, voire des exaucements, quand ma prière provenait de ma vérité, et pas simplement, vous savez, des courants qui parfois nous traversent, les rumeurs, les regrets, les tristesses, les passions tristes, les remords, les ressentiments. Bon, bien, je me suis aperçu que si j'avais maintes fois prié avec les autres, je m'étais rarement, voire jamais d'abord accordé avec quelqu'un pour ensuite demander avec cette personne quelque chose de concret à Dieu. Alors pour résumer, je crois ne m'être jamais accordé avec quelqu'un pour demander à Dieu quoi que ce soit. Et alors j'ai commencé à bien comprendre la pointe de cette phrase intercalée au milieu de nombreuses recommandations de Jésus, c'est l'accord d'abord et la prière ensuite. Et pas la prière comme un accord. L'accord d'abord, la prière ensuite. Je me suis donc dit qu'il y a là sans doute un des secrets qui expliquerait pourquoi la plupart de nos prières semblent retomber sur la terre comme des oiseaux abattus en plein vol par des chasseurs qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne pense qu'au plaisir d'interrompre un envol, de détruire une courbe, de détourner un flux. J'ai commencé à envisager, sinon à comprendre, pourquoi tant de nos prières retombent au sol comme des oiseaux morts. Comment faire pour qu'ils continuent à vivre et à voler, pour qu'ils migrent, pour qu'ils passent d'un monde à l'autre? Certains disent par ailleurs, mais cela ne fait que m'embrouiller, mais quand même il faut le répéter, pour sortir des embrouilles justement, disent que le secret de la prière serait la sincérité de la demande, le top de la sincérité de la demande, c'est-à-dire une demande vraiment claire et pas simplement l'expression, comme on l'a dit plus haut, d'un vague ressentiment. Mais qu'est-ce que je sais de ma sincérité au fond? Ma seule sincérité dans ce cas, c'est l'acte même de prier, parce que là, c'est incontestable, même à genoux, là. Mes genoux le sentent, c'est sincère. Si tant est que je me mets à prier à genoux, chacun prie comme il veut. Le contenu de la prière, lui, restera à jamais enfoui dans mon labyrinthe personnel. Mais d'après notre texte, le vrai secret, c'est l'accord, la mise en accord, en symphonie, d'au minimum deux personnes, pour aller ensuite prier, pour demander, et même plus que demander, puisque le verbe employé pour demander ici peut aussi bien se traduire par exiger, comme en français d'ailleurs, en vieux français. C'est une façon peu commune, certes, mais cohérente, finalement, d'envisager l'assemblée, ou l'assemblée que nous formons ce matin, par exemple, le culte, comme une assemblée exigeante devant son Dieu, le Dieu qui l'a convoqué, cette assemblée, qui a invité chacun personnellement à venir à ce rendez-vous, à exiger, certes, après l'avoir remercié de nous avoir invités, de l'avoir loué de cet honneur qu'il nous a fait, de nous inviter. Mais ensuite, après la louange, l'exigence. Au culte, il y a toujours quelqu'un, à un moment donné de la liturgie, pour nous dire « prions ». Mais me suis-je, avant de prier, d'abord accordé avec mon voisin de prière? Je ne dis pas « réconcilier » ici, parce qu'on n'était pas forcément fâché. Se réconcilier, au fond, c'est plus facile. Il suffit de vouloir. Mais me suis-je bien d'abord accordé avec lui ou avec elle? Car là, il ne suffit pas de vouloir mettre un terme à un différend quelconque, en prenant sans doute sur soi, etc. On peut toujours neutraliser un conflit, trouver un terrain neutre et des mots vagues. S'accorder, ce serait plus subtil. Si en grec ici ça parle de symphonie, en français accorder ça parle de cœur. Corder, le cœur. Alors, on va tout mêler dans la métaphore là, mais en français comme en grec, il s'agit de faire vibrer ensemble des pulsations et des tonalités différentes, de deux instruments différents, fabriqués avec des normes différentes, des cultures différentes, destinés à des usages différents, avec des matériaux différents, avec chacun des malfaçons, des torsions, des coups reçus, comme nos cœurs qui battent rarement en harmonie et qui ont reçu beaucoup de coups. Il ne s'agit pas uniquement de se parler, parlons-nous, vous savez, le langage commun, le code habituel, les phrases habituelles et toutes les répétitions qui vont avec. Ça, évidemment, nous le faisons car c'est facile. Mais s'accorder, c'est plus difficile, c'est plus dangereux, c'est plus éprouvant, car il faut d'abord réussir à entendre cette dissonance qu'on refoule constamment, mais elle est là, cette dissonance provoquée par nos parcours, nos âges, nos représentations différentes. Révéler cette dissonance pour ensuite commencer à accorder, à s'accorder. Les musiciens qui jouent ensemble le font avec des instruments qu'ils portent, et s'ils réussissent, l'œuvre est produite et la beauté devient touchante. Ces musiciens peuvent être indifférents l'un à l'autre quand ils ne jouent pas, ou se détester, ou se jalouser, mais bref. Mais s'ils s'accordent en permanence, la beauté apparaît, la symphonie, l'Église. Dans l'Église inspirée par le Christ, nous sommes nous-mêmes les instruments, mais nous prétendons souvent vouloir faire apparaître l'œuvre de Dieu sans apprendre, sans faire le travail, sans considérer cet instrument, sans apprendre comment l'utiliser ou en jouer, sans prendre de risque au fond, de nous accorder avant, dans le sens, dans l'essence que j'ai tenté d'évoquer jusqu'à présent. Alors maintenant, si j'étais un simple animateur ou un animateur de culte, je ferais maintenant une animation. J'inviterais à faire des groupes de deux, et je demanderais à chaque groupe de s'accorder à deux ou trois, dit le texte. Et là, j'espère que je vous fais un peu peur. Je ne suis pas un animateur de culte. Comme beaucoup de gens qui se relaient à cette chaire, je suis un prédicateur. Je suis adulte et nous sommes tous des personnes responsables. Et nous sommes invités ce matin à rejoindre, à répondre à cette question fournie par l'Évangile. Avons-nous déjà au moins essayé de nous accorder avec quelqu'un avant de prier avec cette personne pour demander à Dieu quoi que ce soit de concret? Et si nous ne l'avons pas fait, voudrions-nous au moins essayer? Et si nous avons essayé un jour, voudrions-nous continuer? Se donner rendez-vous avec quelqu'un de notre Église, ou pas d'ailleurs, dans l'objectif de demander à Dieu quelque chose de concret, mais en faisant d'abord ce travail d'accord. Je ne connais pas la méthode précise. Ce n'est qu'une histoire de sensibilité, d'intuition, de finesse et d'écoute. Ce n'est qu'une histoire d'abandon, du désir permanent d'avoir la voix la plus haute, la parole la plus vraie, la plus englobante. Ce n'est qu'une histoire finalement de s'ouvrir à l'autre au-delà de la représentation du commerce social, notre vie habituelle. Cet accord pourra se faire dans la construction de cette demande, de cette prière. Mais il faut faire attention de ne pas avancer plus vite que la musique, si je puis dire. Alors, parce que, attention, si on est malin, et on est tous très malins, si on est malin, on peut simuler l'accord très rapidement pour ensuite aller exécuter une prière. On peut toujours exécuter une prière et donc l'empêcher de migrer, de s'envoler. Donc, j'espère que déjà j'ai tenté de vous faire prendre conscience du degré d'exigence qu'il y a dans ces deux versets. Alors, et au moment où nous jugeons que cet accord est fait, ensuite, priez. Exprimer la demande que notre accord aura dévoilée. Voudrions-nous au moins essayer pour que nos prières ne soient pas en permanence replaquées au sol, pour que nous sachions ce que nous voulons avant de le demander, pour que notre Église, par exemple, devienne une Église symphonique, une Église accordée et une Église exaucée, s'accorder pour demander et recevoir. Juste, essayez. Amen.